Et comme promis, on va reparler de l'Ukraine à présent. L'Ukraine, ou même si Kiev ne reconnaît toujours pas officiellement avoir perdu la ville de Bakhmout dans l'est du pays. Tout porte à croire cependant que le rapport de force a considérablement évolué en faveur de la Russie sur place ce week-end. Une évolution telle que depuis samedi, Moscou et les mercenaires de Wagner n'hésitent d'ailleurs pas à revendiquer avoir pris le contrôle de la cité et que le groupe paramilitaire annonce désormais même le transfert de ses positions à l'armée russe d'ici au 1er juin. Alors pour faire le point sur la situation, nous sommes en ligne avec Pierre de Jong, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut de formation Témis. Le dernier ouvrage que vous avez publié s'intitule « Agir entre les lignes » et il est paru aux éditions Mareuil. Pierre de Jong, on a l'impression que Wagner quitte Bakhmout juste après y avoir planté son drapeau. Pourquoi est-ce que le groupe se retire finalement aussi rapidement ?
Mais c'était annoncé, parce que Prigojine, depuis plusieurs semaines, annonce sur billet d'orbi que, un, il a des problèmes avec l'armée, puisqu'il n'est pas équipé, il n'est pas aidé, il n'est pas appuyé, et donc il a annoncé qu'il souhaitait partir. Alors ce qui est étonnant maintenant, c'est qu'il y a encore quelques jours, on avait un doute quasiment sur la prise de Bakhmout. Maintenant on sait que c'est fait, et donc quelque part, il va au bout de sa décision quelque part, et donc il est en train de se désengager. Ce qui est paradoxal, c'est dans un système frontal, enfin un système de front continu russe, d'avoir cette espèce de trublion au milieu, avec Wagner qui fait un peu ce qu'il veut. Donc en fait, c'est lui qui décide quand il va et quand il s'en va. Donc c'est extrêmement étrange. Mais encore une fois, aujourd'hui, la question ne se pose pas de savoir si Bakhmout est prise. Bakhmout a été pris par les Russes depuis quelques jours maintenant.
L'armée russe et les hommes de Wagner, vous disiez, ça ne se passe pas toujours très bien. Ils ont préparé ce transfert ensemble. Comment les choses se font ?
Alors, théoriquement, ce genre de transfert, on met quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au minimum, une quinzaine de jours, parce que vous avez un transfert au niveau du premier échelon, quasiment d'homme à homme, de trou d'homme à trou d'homme. On dit voilà quelles sont les missions, et etc., les problématiques vraiment au niveau du combattant individuel. Et ça remonte bien évidemment jusqu'au niveau du commandement, où là, on se répartit les missions, on se donne les moyens de transmission. Enfin, si vous voulez, il y a une espèce de système très précis. Le problème, c'est que ce qu'on a l'impression, c'est qu'on a l'impression que Prigojine décide du moment, de quand, de l'endroit et avec qui, quelque part. Et donc, l'armée russe est vraiment, encore une fois, sur un modèle, je dirais, extrêmement attentiste, d'autant que c'est extrêmement sérieux. Je veux dire que ce front, il est fragile, parce qu'encore une fois, c'est là que les Ukrainiens sont battus, et demain matin, les Ukrainiens pourraient très bien relancer quelque chose à partir de Bakhmout, justement.
Et samedi soir, pourtant, Vladimir Poutine, il a félicité Wagner pour la prise de Bakhmout. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette sortie du président russe ?
Alors, vous savez, on est un peu dans le théâtre russe quelque part, hein. C'est que on peut se poser la question de savoir jusqu'où, si vous voulez, les diatribes de Prigojine étaient réelles ou pas, où elles étaient organisées ou pas. Est-ce que l'État russe n'est pas derrière tout ça? Et on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction, si vous voulez, entre les mots extrêmement agressifs prononcés par Prigojine il y a quelques jours contre Shoigu, le ministre de la Défense, et évidemment, Gerasimov, qui est le chef d'état-major des armées. Et puis aujourd'hui, quelque part, Poutine va annoncer officiellement qu'il va décorer de l'ordre du courage Prigojine. Donc il y a des paradoxes qu'on n'a pas encore élucidés, mais encore une fois, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être une espèce de jeu d'ombre, une espèce de jeu qui...
Pierre de Jong,
où ils en étaient.
Il y a eu une petite coupure, on vous avait perdu, mais on vous a retrouvé, j'ai l'impression, Pierre de Jong. Ce départ de Wagner, de Bakhmout, est-ce qu'il signifie aussi un départ du groupe de la région du Donbass, ou bien est-ce que les hommes de Wagner vont être déployés ailleurs sur ce front ?
Moi, ce que je pense, c'est que la séquence Wagner en premier échelon est terminée. Et on va passer sur un autre modèle, qui est un modèle beaucoup plus conventionnel, avec une armée russe qui va recevoir le choc de la contre-offensive ukrainienne. Ça, c'est mon impression. Et le deuxième point, c'est que Wagner va se concentrer sur son travail principal, quelque part, qui est l'Afrique, et l'influence par la sécurité qu'elle effectue ou qu'elle exerce dans de nombreux pays africains.
C'était également la dernière question que je voulais vous poser, Pierre de Jong, cette présence de Wagner en Ukraine depuis plusieurs mois, dans le Donbass et à Bakhmout, est-ce qu'elle pèse, est-ce qu'elle a pesé sur les autres théâtres d'opérations où le groupe est habituellement déployé, et donc l'Afrique à laquelle vous faisiez allusion à l'instant ?
Alors, indéniablement, l'opération en Ukraine a été le cœur, a été le core business quelque part de Wagner. C'était là que tout s'est passé, d'autant que Prigojine est resté plusieurs mois à Barmouth. Donc en fait, le chef étant présent, c'est là que ça s'est passé. Et évidemment, il y a probablement eu une espèce de déclin relatif, bien évidemment, de l'influence russe, en tout cas de l'influence de Wagner dans les États africains. C'est pour ça que je pense que quelque part, le départ de Wagner de l'Ukraine, en tout cas sa transformation, ou en tout cas sa distribution sur un autre endroit, en tout cas sa réinstallation ailleurs, même si c'était un peu en Ukraine, globalement, aujourd'hui, ils vont se reconcentrer sur l'Afrique, qui est vraiment le cœur de leur activité d'influence.
Merci beaucoup, Père de Jong, ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut de formation Thémis également. Je rappelle que le dernier ouvrage que vous avez publié est paru aux éditions Mareuil, il s'intitule « Agir entre les lignes ». Merci à vous d'avoir été notre invité sur RFI ce lundi.